Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 46. L'eau est essentielle à la vie. De votre robinet à la mer, à votre robinet, l'eau filtre à perpétuité la vie qui nous entoure. Dans ce 46e épisode, Aube s'est intéressé au cycle de l'eau. Parfois perçue comme une vulgaire marchandise ou une façon d'éliminer les déchets, cette ressource inestimable est aujourd'hui menacée et se doit d'être protégée. Au sommaire, or bleu, argent liquide, un dossier sur la situation de l'eau dans le monde. La tribulation d'une goutte d'eau, un texte signé Annie Schneider. Le cycle de l'eau en milieu urbain et surtout, comment l'économiser. Une entrevue avec une des fondatrices de l'entreprise Les Produits le Mieux. La fourchette bleue, une nouvelle certification pour les produits de la mer. Chaque matin, Aube pêche des valeurs humaines, écologiques et collectives, tout en jetant ses filets dans le fleuve de la prise de conscience. Le mot-clé, cycle. Le printemps se réveille, chassant le froid hivernal, réveillant ainsi la terre et sortant de leur torpeur les eaux qui circulent à nouveau librement. Comme le sang de nos veines, la sève monte dans l'arbre et la multitude de lacs et de rivières rejoignent la mer, mère de toute vie. Cette eau qui nous abreuve, qui nous purifie, qui nous apaise, cette eau qu'on croyait jadis inépuisable, comme les arbres de nos forêts, est maintenant l'objet de spéculation. Comme une vulgaire marchandise. Les multinationales mangeuses de planètes ont érigé leur monopole sur l'or bleu et nous le font payer en argent liquide. Sur la terre entière, le gouffre entre les pauvres et les riches se creuse à une vitesse folle, laissant les démunis mourir de soif. C'est difficile de garder l'espoir et de rester positif, comme le veut la politique de Hope, à la lumière des informations qui vont suivre. Il y a de l'espoir. Il y a des solutions.
L'eau sort de ton robinet, c'est simple, c'est un acquis. On s'en préoccupe finalement uniquement que lorsqu'on en parle dans les médias de ces gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et meurent de dysenterie ou de choléra. Mais c'est loin de nous, ça nous touche que très peu finalement. Sauf que la pollution de l'eau, le manque d'eau, pourrait aussi devenir un jour une réalité chez nous. L'eau est une ressource précieuse, indispensable à la vie, mais fait l'objet d'une exploitation et d'une commercialisation odieuse par de grandes entreprises internationales. Le gaspillage est également un fléau, et pour couronner le tout, n'oublions pas la pollution de cette ressource par les accidents pétroliers et miniers, comme nous l'avons vu dernièrement avec le fleuve Dossé au Brésil, pollué au plomb et à l'arsenic, une catastrophe sans précédent dans ce pays. D'abord, rappelons que c'est dans l'océan qu'une poignée d'acides aminés et de minéraux se sont réunis pour créer la première forme de vie unicellulaire sur Terre. Chaque cellule de notre corps s'en rappelle et a un degré de salinité sensiblement identique à celui de la mer. 70% de l'eau douce est constituée des calottes glaciaires, ce qui laisse un minime 1% d'eau douce renouvelable disponible pour l'être humain, sans oublier les autres animaux et les végétaux. Le Canada représente à lui seul 20% des eaux douces du globe et le Québec, avec ses 500 000 lacs et 45 000 rivières, détient 3% de la réserve mondiale d'eau douce. On a donc l'impression au Québec que l'eau est une ressource illimitée. L'industrie de l'eau est désormais l'une des plus rentables. Elle occupe 35% du marché des boissons rafraîchissantes. Selon le magazine états-unien Fortune, les profits mondiaux de l'industrie de l'eau atteindraient 40% de ceux du pétrole et dépassent déjà ceux de l'industrie pharmaceutique. C'est à quelques géants qu'appartient le monopole de l'eau plastifiée. Danone et Nestlé possèdent 70% des grandes marques d'eau embouteillée distribuées dans le monde. Même les marques comme Labrador et Montclair, qui pourtant semblent plus québécoises, appartiennent à ces deux géants de l'industrie. Quant à Coke et Pepsi, ils nous vendent de l'eau filtrée provenant des robinets de grandes villes états-uniennes telles que Philadelphie ou Détroit. Au Canada, nous sommes plus chanceux, elle proviendrait de Mississauga en Ontario. Mais c'est quand même de l'eau du robinet. Bien que les profits sur l'eau embouteillée soient faramineux, les compagnies ne paient absolument rien pour vampiriser l'eau des sources. Surtout si on compare avec l'industrie du pétrole. Les compagnies pétrolières, elles, paient une redevance au pays d'où elles extraient l'or noir. Mais pour l'eau, zéro. Le plus inquiétant reste l'impact sur l'environnement. Les fonctionnaires du ministère de l'Environnement du Québec attribuent des droits de captation d'eau de source, donc sur les eaux souterraines, sans connaître les répercussions sur les nappes phréatiques. D'ailleurs, ils ne connaissent presque rien sur l'emplacement, le volume, le débit entrant et sortant de ces nappes phréatiques. On ignore même en combien de temps elles se renouvellent. Les études d'impact sont réalisées à 1 km de la source, alors que l'on sait très bien que les impacts se font sentir sur plus de 10 km. Aucun contrôle n'est effectué afin de savoir quelle quantité d'eau est réellement pompée et aucune limite de temps n'est fixée pour l'exploitation des sources. Un autre problème majeur, outre celui du marché de l'eau embouteillée, est celui de la privatisation sauvage des eaux d'aqueduc. Pourtant, toute tentative de privatisation est un cauchemar pour la population, entraîne une hausse abominable des coûts et une baisse criminelle de la qualité des services, à moins bien sûr d'être très riche. Pour l'instant, au Québec, nous sommes épargnés. Mais pour combien de temps encore? C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui insistent fortement, pour ne pas dire oblige, les gouvernements à privatiser leur eau, sous peine de retirer leur aide financière. Pour les pays sous-développés et surendettés, il est ardu de refuser. En Bolivie, cependant, un accord de privatisation de l'exploitation des eaux a été débouté par des regroupements citoyens et des communautés autochtones. En privatisant le réseau d'approvisionnement de l'eau, la Bolivie a vu une augmentation du coût de l'eau de 400% et une très inégale répartition de la distribution. Les plus riches avaient accès à l'eau 24 heures sur 24, tandis que les plus pauvres n'y avaient accès que quelques heures par jour. Grève générale, mobilisation citoyenne et affrontement auront eu raison de l'entreprise exploitante, preuve qu'il est possible de s'opposer à la privatisation. À ce jour, il y a environ le tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Non seulement le manque d'eau pose problème, mais les maladies liées à la consommation impropre, comme la dysenterie, le choléra ou la fièvre typhoïde, causent des dizaines de milliers de décès chaque jour. Il ne faut pas se leurrer, nos voisins états-uniens sont très gourmands et contribuent à l'exploitation abusive d'une bonne partie des ressources naturelles de la planète. Ils sont d'ailleurs les principaux bénéficiaires du traité de libre-échange des Amériques. Les états-uniens consomment par habitant 3 fois plus d'eau qu'en Europe et 100 fois plus que les Africains. Ils détournent actuellement le fleuve Colorado pour irriguer leurs terres agricoles et seulement 4% du fleuve se rend à la mer, privant ainsi les Mexicains de cette eau. Le gouvernement états-unien se garde bien de faire des compromis. On voit même dans le désert de Las Vegas des milliers de litres d'eau gaspillés sans scrupule pour l'entretien des terrains de golf, des nombreuses fontaines et des systèmes de climatisation. Ils puisent également sans compter dans le Rio Grande et projettent de détourner une douzaine de rivières de la Colombie-Britannique vers la Californie qui vit actuellement de grandes sécheresses. La région des Grands Lacs est une des plus vastes étendues d'eau douce au monde, ainsi que la source du Saint-Laurent. Si nous ne sommes pas vigilants et si le gouvernement continue à servir les intérêts des grands consortiums privés, nous risquons fort de nous faire détourner et pomper notre eau. Grâce à la communication, la mobilisation et l'enseignement, nous pouvons conscientiser notre entourage. Le grand boycott est aussi une arme puissante que nous détenons, nous, citoyens. Exprimez votre droit de parole en appelant les fonctionnaires, les ministres et nos dirigeants. Bien que pour l'instant nous ayons la belle vie au Canada, il ne faut pas attendre d'être acculé au pied du mur pour réagir. Nous serons un jour nous aussi confrontés aux problèmes que de nombreux États doivent traiter. La vision de courte mèche et le manque de planification nous donnent l'illusion que l'eau potable est, et sera toujours, un acquis. Vous pouvez aller jeter un œil sur le site eausecours.org ou à celui de la Fondation David Suzuki. Ensuite, au quotidien, arrêtons d'acheter de l'eau en bouteille. Nous avons la chance d'avoir de l'eau potable partout dans nos maisons. C'est un triste paradoxe de voir que l'eau potable est utilisée pour se doucher, aller aux toilettes, laver le linge ou la vaisselle, alors qu'on ne la consomme même pas. Nous parlons de plus en plus de simplicité volontaire, alors arrêtons le gaspillage ostentatoire de l'eau. Et dernier conseil, descendez dans la rue, on vous y attend.
C'était un texte de Frère Ours tiré de Aube, le recueil de solutions, repimpé par Aurélie Subergico.
c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'auquel on a marre d'être bouillu. C'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne. C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème.
On dit que l'eau, c'est la vie. On dit aussi que pour survivre, l'humain n'a besoin que de 5 litres d'eau par jour. Pour la qualité de vie, on donne le chiffre de 80 litres par jour par personne. Selon la coalition Eau Secours, la consommation de l'eau au Canada serait répartie comme suit. 30% pour les utilisations extérieures, 30% pour la toilette, 20% pour l'entretien de la maison, 19% pour les bains et les douches, et seulement 1% pour l'alimentation. De quoi réfléchir. Toutefois, il est possible d'économiser l'eau. Tout d'abord, couper là où on peut la remplacer par des alternatives. Par exemple, utiliser un balai au lieu du boyau d'arrosage pour nettoyer l'entrée du garage est un excellent début. De même qu'un seau d'eau savonneuse pour laver la voiture prend moins d'eau que le boyau avec savon intégré. On aime avoir un beau terrain devant la maison, mais saviez-vous qu'une pelouse en santé n'a besoin que de 2 à 3 cm d'eau par semaine? Pour les utilisations hygiéniques, on peut fermer le robinet lorsque l'on se brosse les dents. Il se vend aussi en quincaillerie un système à prix abordable pour arrêter l'eau pendant qu'on se savonne sous la douche. Si on tient à la chaleur du jet tout au long du savonnage, prendre des douches plus rapides peut faire économiser en moyenne 76 litres d'eau à chaque fois. Pour la toilette, je vous laisse imaginer le désastre. En moyenne, 13 litres d'eau. Attendre d'avoir le maximum de linge sale avant de faire une brassée ou de régler le niveau de l'eau si on n'a pas beaucoup de vêtements à laver est également recommandé. De même qu'utiliser du savon biodégradable réduit les coûts reliés à l'assainissement des eaux usées. Lorsque l'on cuisine, nul n'est besoin de faire couler l'eau du robinet pendant 10 minutes pour rincer une tomate ou de remplir le lavabo pour faire la vaisselle 3 fois par jour. Tous ces trucs et bien d'autres encore ne sont que logiques. Réfléchir avant d'agir est la clé. Avec les multiples robinets disponibles dans une maison, il est maintenant trop facile d'obtenir de l'eau potable et malheureusement, on la gaspille. Rester vigilant est un excellent moyen d'assurer une eau claire et fraîche pour nos enfants et leurs descendants. Pour plus d'informations, consultez le site eausecours.org. C'était un texte de Julie Franqueur tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Philippe Laramet.
y a déjà 4 milliards d'années, pour la sixième fois, ici s'est écrasé un astéroïde issu du vide à la vitesse supersonique par la force cinétique, bonne tactique, celle de la fronde propulsée. Mais qui donc l'a actionné ? Très vite s'est formée dans l'atmosphère, fallait le faire, une bombe H2O au carré. Et ça a pété, ça a gazé, puis a coulé et devenu flamme mouillée qui s'est figée en cristaux collés serrés. D'une seule gougoutte d'eau gelée est renaît une super bactérie, atterrie sur la terre, réanimée, tirée des abysses jusqu'à la lumière vivifiante. Toute titubante, mais à l'origine de la chaîne élémentaire, s'est fabriquée des pattes pour mieux grouiller sur terre. Monde aride où le soleil plombe sur la microbibite frétillante, hantée par l'idée d'explorer toute forme d'existence à phagocyter, les champignons et les plantes pour commencer. Puis, il y a 400 000 ans, est apparu le premier singe nu, seul bipède marchant debout et sa guenon, nomade errant, remontant le fleuve d'argent. Pas de papier monnaie celui-ci, mais d'eau qui méandre librement sans jamais demander son change. Découvrant le feu qui cuit et le métal qui tranche tout, dorénavant plus rien n'arrêtera son emballement. Tous, depuis lors, nous soupirons et supputons inlassablement sur l'avenir, grattant à deux mains, creusant notre trou, érigeant notre tour fortifiée pour demain. Obsession étonnante, cause tellement importante, les nôtres surtout, avoir un avis sur tout, les autres n'ont qu'à sécher, c'est nous qui détenons l'eau, l'or et la vérité. Maître du monde, pourtant tous dans la ronde, aimer parfois la rencontre, alors comme air et feu mêlés, c'est si bon de se liquéfier, par amour, sous et soudé pour toujours, devenir brume, ruisseau, fleuve, pluie, océan, pour un temps. Oui, mais aussi les pluies sombres, les trous saumâtres, les rats d'égout et de marée qui peuvent nous emporter, nous trapper, nous dévorer tout vivant. Qu'importe, il faut forcer des portes pour voir au-delà de nous. Et tout s'accomplit dans le grand Al-Ali. C'est ainsi que se fabrique un nouvel homme, homme ou fameuse âme, femme. Globule animé, souvent mal élevé, seul à être conscient du reste du monde et souvent sciemment con, à étendre ses tentacules cul par-dessus tête, à la conquête du plus lointain, sortir de sa bulle, aller sur la lune, déjà 50 ans. Et pourtant, ici, c'est la seule demeure fiable et viable. Que diable sommes-nous venus faire sur cette terre, à part se faire bouffer par des vers et nos semblables, ou en extraire de notre tête, en cracher dans notre bouche, suivre courants et rivières. Pourtant, mes frangines et frères, notre défi, survivre pour la race fort et fière à la septième et dernière collision possible. Mais si l'eau est là, à l'aube le soleil luira et des enfants riront encore, peut-être.
Un texte d'Annie Schneider du nom de « Tribulation d'une goutte d'eau ».
Saviez-vous que lorsqu'on ressent la soif, notre corps est déjà déshydraté de 1 à 2%? L'eau est vitale. L'humain peut survivre jusqu'à 6 semaines sans manger, mais rarement plus de 2 à 3 jours sans boire d'eau. L'eau évacue les déchets du corps dans l'urine, les selles et la sueur. Si on ne boit pas assez d'eau, le corps s'encrasse en n'évacuant pas les déchets et toxines qui s'y accumulent. Et un corps encrassé est un terrain fertile pour les microbes. Alors, si vous voulez prévenir la maladie, buvez de l'eau. Le corps humain contient entre 65 et 75% d'eau. Plus on est jeune, plus le pourcentage en est élevé. En vieillissant, notre corps perd de l'eau graduellement jusqu'à n'en contenir que 50 à 55%. On se dessèche. Il faut en conséquence boire de l'eau afin de garder en forme et en santé. Vous n'avez pas soif? Alors buvez. Le déclenchement du signal de la soif reviendra si vous recommencez à boire de l'eau. Allez-y graduellement en gardant une bouteille près de vous toute la journée. Cela vous incitera à en boire. Un adulte devrait boire minimum de 1,5 litre d'eau par jour, jusqu'à 3 litres pour les hommes, les gens plus actifs et les femmes plus grandes. Un enfant de 50 livres devrait boire quant à lui 5 verres d'eau par jour, un enfant de 60 livres 6 verres et ainsi de suite. On croit souvent qu'un bébé pleure parce qu'il a faim, alors qu'il a la plupart du temps plus soif que faim. Malheureusement, on donne trop souvent du jus aux enfants et pas assez d'eau. La soif vient en buvant. Donnons-leur de bonnes habitudes. Êtes-vous déshydraté? Vous pourrez reconnaître l'état de déshydratation aux symptômes suivants. La soif, le mal de tête, la fatigue, la léthargie, la perte de l'acuité mentale, une urine foncée, des étourdissements, des rougeurs cutanées et la peau sèche. Si vous buvez de l'eau alors que vous êtes déshydraté, cela ne prendra que 30 minutes pour vous réhydrater et vous sentir mieux. Si la déshydratation est sévère, vous pouvez ajouter à votre eau du jus de pomme pur non pasteurisé. Il l'enrichira avec des nutriments qui favoriseront le rétablissement. Souvenez-vous qu'on ne remplace pas l'eau. Les jus sont souvent sucrés, même les jus sans sucre, indirectement, car ils sont souvent faits de concentrés. Les boissons gazeuses, le café et le thé déshydratent dû à la caféine qu'ils contiennent et l'alcool est la boisson qui déshydrate le plus. Buvez donc de l'eau. Je sais, c'est sans saveur ni couleur, cela semble le breuvage d'une platitude sans comparaison. Mais si vous prenez la peine d'insister, vous motivez à boire de l'eau jusqu'à 1,5 litre par jour, vous y prendrez goût et vous ne pourrez plus vous en passer. Santé!
Un texte de Julie Francoeur tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Marie-Claude Journeau.
C'est le son de la pluie sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau. J'ai le goût de l'eau. J'ai envie de ta bouche, de cet orage tendre où nos corps se touchent, où nos désirs se répandent dans nos ruisseaux farouches. Oh, le goût de l'eau. Roue coulante, miroitante, en fine gouttelette sur le doux de ton ventre, balbutiante, délirante. Oh, le goût de l'eau. Du ciel, sur le bout de la langue, c'est un peu d'éternel. C'est le chant des bateaux, le vent qui les appelle. Oh, le goût de l'eau. Dans la soie des rivières, sous le sel de la mer, on perd le vivante dans les crins de la terre et sous la nappe dormante de ce lac en hiver. Oh, le goût de l'eau. Dans la transparence de l'aquarelle, quand elle coule sur le dos de l'arc-en-ciel, dans les mots des oiseaux, sur le bleu de leurs ailes. Oh, le goût de l'eau.
comme c'est beau. Ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la radio. Ce sont des larmes d'ange sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau. J'ai le goût de l'eau, j'ai envie de toi. J'ai envie d'apprendre ce que je sais déjà. De me laisser couler jusqu'au creux de tes bras. Oh, le goût de l'eau. J'ai le goût de l'eau, que l'orage gronde, qu'une inverse de tendresse inonde le monde, et que flotte notre amour sur les eaux profondes. Oh, le goût de l'eau.
Après avoir été enlevée puis libérée par un dénommé Maître Garibaldi, j'eus l'immense privilège de découvrir son projet utopique d'une civilisation souterraine. Errant un peu dans l'immense caverne où séjournait une civilisation bien jeune, je rencontrai une forêt et avec elle des doutes. En partant le pas ferme en direction des collines, d'où j'apercevais à peine les lumières faibles du hangar, mon oreille fut alors attirée vers le bruissement calme d'un ruisseau. Une chanson mystérieuse y éveillait mes sens par les multiples ricochets de l'onde entre les rochers avachis dans le sol sablonneux. Avez-vous déjà rencontré un jardin japonais au détour d'une marche ? J'eus la joie, il y a de ça quelques années, lors de mon voyage dans l'ancienne Val-Russie, d'en voir un. Une surface calme de sable fin, tournée et retournée dans des spirales infinies. Au-dessus de l'étendue blanche, des rochers comme des montagnes déguisées sous l'azur en des ombres mystiques. La rivière d'où surgissait le chant donnait à mon regard la même satisfaction que le dit jardin. L'eau devait venir d'une source loin sous la terre et ressurgissait là, entre les mousses et les arbres. Depuis au moins un siècle, son cours usait la terre et ciselait la roche pour y inscrire de légers vallons. Un individu ballotté tel que je l'étais, dans les remous indicibles d'une aventure incroyable, ne pouvait que se poser et assurer son âme sur la mare de la calme image du flot. Je pris donc le temps de réduire les battements de mon cœur en de larges inspirations et de fixer mes idées. Tout ceci était venu sans raison, et survivait dans la terre sans le recours de l'homme. Les cadavres et les heurts glacés encore présents sur le sol de la clairière, quant à eux, vibraient de la volonté de mes pères. Comment ne pas comprendre ici les idées du destin ? Tout ce que l'homme construit glisse dans l'oubli et se morfond en lui-même par la corruption enchaînée de ses imperfections. La nature, elle, travailleuse, journalière, réconforte en de grandes enjambées le monde malade et le recouvre toujours du souffle indiscernable de la vie. Entre nos chaos et son ordre, était-il possible de concevoir un équilibre, une harmonie ? À force d'intriguer avec les concepts, de concevoir au lieu de voir et de construire au lieu de structurer, nous avons, dans le génie maudit de notre immensité, aboli les lois du monde et insufflé dans leurs nouveaux enfants les germes de la décadence. L'homme ne peut pas créer ex nihilo et s'en croire capable revient à supporter l'orgueil de tout un monde. De même qu'une utopie, même celle instigée par notre génial maître Garibaldi, ne pourra jamais vivre, il demeure dans les architectures humaines un degré originel de crasse impossible à couvrir. Une graisse sur laquelle glisse l'ordre. Au contraire, la nature, elle, nous offre de l'espoir. Étrangère à nos mœurs, elle survit dans une étendue qui nous dépasse et nous entoure. Peut-être qu'en suivant à la manière des flots que j'avais sous mes yeux, les détours d'une route formée par ce qui n'est pas l'homme, nous arriverions à inscrire notre trace sans pourrir notre vie ? Cela demandait réflexion, devenir les gardiens d'un ordre qui nous précède, effacer l'orgueil, accepter et sourire de ne plus être la race élue et avancer dans le phare initial, loin des interférences illusoires de nos propres démons. Sans m'en rendre compte, mes pas, qui accompagnent toujours mes plus profondes réflexions, me guidèrent bien loin, en amont du ruisseau, vers un tunnel inconnu.
La rivière avait raison. Le silence, Ça n'existe pas.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plutôt en début d'émission, nous avons entendu un dossier sur l'eau avec or bleu, argent liquide, la tribulation d'une goutte d'eau, comment économiser l'eau et l'apostrophe de Monsieur Tubercile de Jean-Baptiste Gardarin. La musique de Jeanne Chéral avec l'eau et de Michel Rivard avec le goût de l'eau. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, le cycle de l'eau en milieu urbain pour joindre l'utile à l'agréable. Une entrevue avec une des fondatrices des Produits le Mieux. La fourchette bleue, une nouvelle certification pour les produits de la mer. Une présentation de Polaris, un jeu de rôle post-apocalyptique où les joueurs évoluent sous les océans. Sans oublier la musique d'Henri Salvador avec Le fil de l'eau et Claire Pelletier avec Le vaisseau fantôme.
Assis au bord de l'eau, j'ai laissé tremper mon fil dans l'eau. J'ai mis la bouteille au frais et mon chapeau sur le nez. J'ai laissé tremper mon fil dans l'eau. J'ai regardé les reflets de l'eau en laissant tremper mon fil dans l'eau, ignorant si les poissons viendraient morts à l'hameçon. J'ai bu le vin frais au bord de l'eau. Une fille s'est assise au bord de l'eau, elle a regardé le fil dans l'eau. Je lui ai donné du vin, le soleil était câlin. On s'est embrassé au bord de l'eau. On s'est enlacé au bord de l'eau, en laissant tremper le fil dans l'eau. Et plus tard, main dans la main, ses cheveux frôlant les miens, on s'est endormi au bord de l'eau. On s'est endormi au bord de l'eau. On s'est endormi au bord de l'eau.
Les toits verts ne sont pas une panacée, mais ils méritent leur place dans le cycle de l'eau en milieu urbain. Voici les deux modèles de réseaux de collecte d'eau qui coexistent à Montréal. D'une part, il y a le réseau dit séparé, qui lui achemine distinctement les eaux dans deux types de canalisations. D'abord, celles venant des édifices que l'on nomme les égouts sanitaires, qui sera traitée. Ensuite, les eaux de pluie, c'est-à-dire les égouts pluviaux, qui contiennent l'eau qui ne sera pas traitée, mais dirigée directement dans le fleuve. D'autre part, il y a le réseau combiné. Lui récupère dans une seule canalisation les eaux usées des égouts sanitaires et pluviaux, en plus des eaux de ruissellement. À Montréal, on retrouve un réseau séparé, surtout en périphérie, comme dans l'ouest de l'île où les constructions sont plus récentes. Selon les experts, c'est celui-ci qui devrait être privilégié. Le fonctionnement de l'usine d'épuration de l'île de Montréal est très coûteux, surtout lorsqu'il pleut. On dit que plusieurs mètres cubes d'eau de pluie sont traités parce que les villes, faites de béton et de ciment, deviennent de plus en plus imperméables. Il n'y a qu'une seule usine d'épuration des eaux à Montréal, et lors de fortes précipitations, le système de collecte devient surchargé, se retrouve en surverse et l'eau de tous les réseaux est déversée directement dans le fleuve Saint-Laurent ou dans la rivière des Prairies. Résultat, des coliformes dans l'eau. Ce qui m'amène à vous parler de solutions, et je pense ici aux toits verts. Saviez-vous que les toits végétaux peuvent retenir jusqu'à 50% de l'eau de pluie qui sera alors absorbée par les plantes?
Une économie notable sur le débit d'eau qui ne passerait plus par le système d'épuration. Il s'agit donc d'une stratégie pour améliorer la qualité de l'eau.
Un texte de Nadia Gagné, tiré de Aube, le recueil de solutions. Repimpé par Marie-Claude Tardy.
On a vu ce qui est arrivé avec les égouts, où on les met les égouts, hein? En milieu urbain, en milieu rural, parce que tout est rattaché. Puis en même temps, on croit avoir beaucoup d'eau. Donc on devient un point de référence et d'exemple pour le reste de la planète, sincèrement. Produit Lemieux, c'est une entreprise québécoise, évidemment, qui a été créée par André-Lise Lemieux et Chantal Bernier en 93. Concrètement, sur la rue Fleury, 2228 Fleury Est, à côté de l'hôpital Fleury, un petit local de 450 pieds carrés, 10 marches en bas. Je vous jure qu'il fallait se patenter quelque chose pour faire descendre les barils avec une plateforme. On a eu bien du fun. Un an. Et ensuite, sur Mont-Royal.
Parce que moi, je vous connais depuis Mont-Royal.
Mont-Royal, bien.
Ouais. En 98, je pense.
Exactement, 97-98, on est arrivé là. Trois boutiques. Une à Montréal, une à Québec, une à Brossard, sur le boulevard Taschereau. On a une cinquantaine de points de vente. Mais en commençant par le corps, on a un gel douche, shampoing, savon à main, ce qu'on appelle le 3 en 1. Les shampoings revitalisants. Lessive, dégraisseur, shampoing, liquide vaisselle. D'abord, au début, on avait 12 barils. On en a 127 maintenant, OK, dans chaque succursale. Peut-être un peu moins à Québec parce que c'est un peu plus petit, mais quand même, au moins les principales, 90 à peu près, là. Mais en même temps, là, il faudrait juste comprendre que c'est pas plus cher. Il y a beaucoup de gens encore qui croient que c'est plus cher. Ça dure deux fois plus longtemps. Je donne un exemple. La lessive, je fais avec un petit 1,5 litre, 75 brassiers versus 35 brassiers sur le marché. Fait que c'est, même si le prix est un petit peu plus haut, tu sépares ça en deux, puis ça fait le prix spécial à l'épicerie. Lessive qu'on a conçu spécialement pour les couches lavables, dont une odeur qui couvre ou élimine vraiment l'odeur des couches. Hein? Et pour les vêtements, puis du sans-odeur. Il y a des trucs pour maman aussi. Les serviettes sanitaires réutilisables. OK, on a un super détache-sang. Lessive en passant, là, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes de peau. Première chose à changer, c'est la lessive. Le trois quarts des problèmes est réglé. Alors que les dermatologues aiment mieux peut-être des fois pousser des petites crèmes. Là. Okay. Une fois qu'on arrête la crème, le problème recommence parce qu'on a des parfums synthétiques, un paquet d'agents de conservation dont les gens ils sont vraiment très allergiques. C'est pas le fun là, pour les gens parce qu'ils cherchent des solutions. La solution au problème de peau, c'est souvent la lessive. Ça touche directement la peau, les draps, tout ça. Là. Sans odeur, sans agents de conservation et sans agents chimiques, là, peu importe parfum chimique ou quoi que ce soit. Des baumes à lèvres, dentifrice, déodorants. On a plusieurs compagnies québécoises. D'ailleurs, des petites cosméticiennes. J'en ai une, entre autres, 30 ans. L'autre, 25 ans. Ils sont en plein essor. Ils ont des trucs complètement naturels. Idoine. On distribue Valande. On a un savon et plus. On a Diligence, effectivement. Je ne veux pas en oublier, là, l'herbier. Plusieurs compagnies québécoises. Donc, juste téléphoner, voir si on n'a pas telle femme. C'est fun parce que c'est devenu un point de rencontre. J'aime pas faire le ménage. Mais je le fais parce que j'aime ça que ça soit propre quand même. Des linges, genre chez moi, qui permettent que ça va plus vite pour laver une fenêtre et on n'a pas à s'inquiéter des petites rayures. Ça, c'est fun, ça. Le ménage, on n'aime pas ça personne. Quand on tombe dedans, on veut le faire comme il faut et ça prend pas de temps. Une super friperie, 0-6 ans. Couche lavable pour les enfants, évidemment, mais toutes sortes d'accessoires. Donc, les petits feuillets dans les couches. On a des livres pour enfants. Mais la friperie là, prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. 0-6 ans, les gens ils viennent ici avant d'acheter neuf, parce qu'on a, c'est quasiment neuf. Les gens qui nous apportent du linge, là, c'est des gens, c'est consignation. Donc, les gens apportent leur propre linge. C'est hyper propre. Ça n'a presque pas servi, même que des fois, on reçoit des gens, des trucs neufs. Puis tout le monde en trouve son compte. Si tu achètes ici pour 30 $ de vêtements, tu en as en temps.
Avez-vous eu une recrudescence de clientèle pendant justement le fameux Flushgate au mois de novembre?
Je te dirais qu'on a eu une recrudescence de clientèle, point. À cause de ça.
Est-ce que ça a allumé des cloches dans la tête des gens?
Je crois que oui. Sincèrement, oui. Et j'ai trouvé ça affreux. Puis apparemment que ça ne fait pas d'aujourd'hui. Là. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Avec toute la technologie qu'on a, honnêtement.
Parce que ça leur a amené le sujet à l'heure du jour?
Tout à fait.
Du jour au lendemain, les gens sont devenus des experts en réseau de sanitaire. Les goûts, ils ont tout le temps.
Oui. Parce que l'histoire du petit canard, là, qui avait l'air à être bien correct là, sur un tas de déchets, là, ben j'en doute fort.
Pour Aube, c'était une entrevue de Philippe Laramé. Après avoir parlé d'agriculture et d'alimentation, Aube s'est dit que qui dordine, mais qui dîne va obligatoirement aux toilettes. Difficile de faire un épisode thématique sur l'eau sans parler de l'invention de notre très chère toilette à floche. Celle-ci remonte à l'origine de la civilisation. Dès qu'un grand nombre de personnes se retrouvent réunies au même endroit, il y a besoin d'un système pour évacuer les ordures et les excréments. Les archéologues ont mis à jour des vestiges de réseaux d'eau, voire de toilettes aussi vieilles qu'au 25e siècle avant Jésus-Christ, dans la civilisation de la vallée de l'Indus. On retrouve des égouts en briques en Mésopotamie, ainsi que des tuyaux en terre cuite dans les palais minoens, qui transportaient l'eau sous pression aux fontaines. Des tranchées en pierre transportaient les eaux usées. Des systèmes similaires auraient existé en Chine et en Égypte ancienne. C'est sans doute dans la Rome antique que l'on retrouve les aménagements sanitaires les plus connus. Deux dieux y sont même dédiés. Stercutius et Cripitus pour les lieux d'aisance, ainsi qu'une déesse, Cloacina, qui veillait sur l'égout principal. Un réservoir standard de toilettes contient environ 13 litres d'eau. Ceci pour les toilettes récentes. Les vieilles cuvettes peuvent en contenir jusqu'à 20 litres d'eau, ce qui implique que nous utilisons toute cette eau à toutes les fois que nous tirons la chasse. Ça fait beaucoup d'eau, parfaitement potable pour évacuer nos déchets. Nous pouvons toutefois faire des choix visant à limiter la surutilisation de l'eau. Par exemple, mettre dans le réservoir une brique ou une bouteille remplie d'eau. Cela en réduit le volume d'eau utilisé. Ne pas chasser l'eau systématiquement à chaque pipi. Ce n'est pas ce qui salit le plus, il n'y aura aucune odeur si vous refermez le couvercle. Vous pouvez acheter une toilette à 2 débits. Le plus petit débit est de 3 litres d'eau et le second de 6 litres, ce qui suffit généralement amplement. La toilette compost ne fait pas l'unanimité, surtout en ville, mais reste tout de même une alternative très envisageable. C'est donc en faisant des choix conscients que l'on peut limiter son impact sur l'environnement. À vous de chasser l'eau de manière intelligente. C'était un texte de Julie Francoeur tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Philippe Laramé.
Sur les flots, la mémoire des eaux. rester debout. J'ai vu des marins devant sur la proue. J'ai vu des marins ou des hommes fous. J'ai vu Crusoé par les radeaux et ce fleuve était beau. Où sont les bateaux? Là-bas sur les flots.
Corail de Gaspésie, le lacet de mer ou la mousse d'Irlande. Avez-vous déjà goûté au caplan, au crabe araignée, à la loquette d'Amérique ou au calmar du Saint-Laurent? En fait, c'est probable que vous ne sachiez même pas de quoi je parle. En fait, c'est pas compliqué, au Québec, on connaît surtout les saumons de l'Atlantique et d'élevage, le thon rouge, pourtant en voie de disparition, et quelques poissons de rivière à la limite. Nous ne connaissons que très peu les poissons de notre beau pays, les algues comestibles et les crustacés juteux aux multiples qualités gustatives. L'organisme Exploramer, basé à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, a mis en place en 2009 un label Fourchette Bleue qui vise à encourager les restaurateurs dans l'utilisation des produits de la mer québécois. Petit retour sur Exploramer. L'organisme a été fondé en 1995 et sa mission est de sensibiliser le public à la préservation et à la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent. L'organisme concrétise cette mission à travers des activités de vulgarisation scientifique offertes au musée, au parc aquarium, lors des excursions en mer, mais aussi lors de l'activité de cueillette de poissons et dans les écoles de la Gaspésie via un programme pédagogique adapté aux différents niveaux scolaires. Depuis 2009, Exploramer s'engage pour une gestion saine des ressources marines et a mis en place une labellisation Fourchette Bleue qui encourage les restaurants, poissonneries et chefs cuistots à faire découvrir des espèces comestibles et méconnues du Québec. savoir quels sont les lieux qui offrent de telles découvertes, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur le site d'Exploramer et d'aller dans l'onglet Fourchette Bleue. Alors si vous n'avez pas non plus la possibilité de vous rendre à Rimouski ou à Percé pour le dîner, il existe quelques adresses à Montréal. Les restaurants Chez Chose, au 5e Péché, la Coupole, les 400 Coups, la Poissonnerie La Mer ainsi que les traiteurs Agnus Dei et Délices du Terroir donnent à nos papilles de belles occasions de découvertes. Pour faire partie de la liste des espèces mises de l'avant par la Fourchette Bleue, n'est pas VIP qui veut. Les poissons et autres produits de la mer doivent passer des tests très rigoureux et répondre aux critères suivants. Être tout d'abord comestible, c'est quand même mieux, être en quantité suffisante dans le Saint-Laurent, la technique de pêche doit être respectueuse des fonds marins et enfin l'espèce doit être méconnue des marchés de consommation et pouvoir assumer une commercialisation plus importante. Bref, à la fois gustativement intéressante et éthiquement irréprochable, la pêche soutenue par la Fourchette Bleue te donnera à découvrir un autre patrimoine bien plus coloré que ce que l'on peut imaginer. De plus, le site donne aussi quelques recettes pour apprêter vos découvertes. Alors rendez-vous sur le site de la Fourchette Bleue pour connaître tous les endroits qui apporteront aux chefs professionnels et amateurs de quoi titiller leur imaginaire aquatique.
Texte et narration d'Aurélie Suberchico.
La terre d'aujourd'hui a sombré dans le chaos. Il ne reste rien de ce que nos lointains ancêtres ont pu connaître. Notre planète a subi une série de catastrophes aux proportions bibliques qui a rendu la vie en surface impossible pour les humains. De ces cataclysmes, nous ne savons pas grand-chose, ni ce qu'ils ont été, ni ce qui les a provoqués. Certains murmurent que le Grand Conseil de l'hégémonie tairait ces informations pour le plus grand bien de tous. D'autres affirment que le culte du Trident conservait dans ses ordinateurs les souvenirs du temps passé. Quoi qu'il en soit, ce qui reste des terres non submergées est balayé par des tempêtes incessantes, des maelstroms d'énergie, des pluies corrosives, des tornades colossales et des champs radioactifs mortels. Le monde est désormais peuplé de fauves monstrueux qui règnent sur un univers désolé, nourrissant des parasites répugnants. Le règne végétal s'est adapté à ce nouvel environnement. Les arbres sont devenus des prédateurs vicieux à l'allure terrifiante, capturant dans leurs branches tentaculaires les imprudents. Les plantes rabougries ont appris à se mouvoir et à chasser. Des insectes purulents s'abattent en nuées sur les restes de la civilisation terrestre, dans l'ombre de colosses de notre temps rongés par des parasites. Les portes de l'enfer se sont ouvertes en grand, déversant leur cohorte d'horreur sur notre monde. L'homme a dû fuir la surface, ne laissant derrière lui que quelques usines fortifiées et entièrement automatisées qui lui procurent certaines denrées vitales. Il s'est établi un peu partout dans les océans et tente d'y reconstruire la civilisation. Il y a découvert un univers plus vaste que le précédent, plein de mystères et de dangers. Dans ce nouvel univers de ténèbres et de silence où l'oxygène est la plus précieuse des matières premières, les multiples colonies tentent de survivre. Mais les guerres, les pirates, les pillards, les terribles prédateurs marins et d'étranges phénomènes menacent sans cesse cette nouvelle société aussi fragile que du cristal.
Polaris est un jeu de rôle dont l'action se situe dans un lointain futur dans lequel le monde de la surface est devenu inhabitable pour l'espèce humaine. L'homme s'est réfugié dans les profondeurs de l'océan où il tente de survivre tant bien que mal face aux multiples difficultés qu'il rencontre dans ce milieu hostile. La dégénérescence de l'espèce, qui se manifeste par l'accroissement du nombre des individus stériles et certaines mutations génétiques, les guerres perpétuelles qui ont ravagé des colonies entières, les monstres et surtout la difficulté d'exploitation des ressources naturelles comptent parmi les problèmes immédiats de cette civilisation. Dans ce nouveau monde d'obscurité et de silence, les joueurs peuvent incarner des agents de l'une des puissances sous-marines, des mercenaires ou encore des indépendants tentant d'établir leur propre communauté. Quel que soit le camp qu'ils choisiront, ils découvriront vite que tout n'est pas noir ou blanc et que pour perdurer, l'humanité devra s'unir contre l'adversité. En attendant, Ils devront se battre contre tous, s'équipant comme ils le peuvent, achetant les précieux mélanges respiratoires ou du fluide. Ils devront bricoler, rafistoler, trafiquer leur appareil. La chance leur sourira parfois lorsqu'ils découvriront du matériel neuf ou une des caches du sinistre empire des généticiens. Leur destin sera plus sombre lorsqu'ils croiseront la route de pillards ou de pirates. Mais les aventuriers pourront aussi accéder à la célébrité ou même influencer le destin du monde par leurs actions ou leurs découvertes. L'humanité a besoin de héros et des empires peuvent naître de certains idéaux. Narration de Martin Junior Pelletier et de Philippe Laramé. C'est ce qui conclut l'épisode 46 de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Tardy, Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Superchico, Annie Schneider, Martin Junior Pelletier et Marie-Claude Journeau. Un grand merci à Maurice Bolduc pour les propositions musicales. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.
Me suis levé à matin à